Tout à l'heure, on a entendu dans le témoignage de Claude, hein, les pratiques des églises. Hein. Donc, certaines églises qui pratiquent le baptême, hein, des tout-petits, dans d'autres, eh bien, on reporte le baptême à plus tard. Nous, évangéliques, donc protestants, eh bien, nous comprenons des saintes écritures que le baptême est une réponse à un engagement. Hein. C'est vrai que ça a travaillé le cœur de Claude. Hein. Tout à l'heure, il a clairement partagé. Et c'est vrai qu'en lisant le livre des Actes, eh bien, nous voyons que, eh bien, il y a à chaque fois un témoignage qui est rendu et une réponse à l'appel de Dieu. Alors ce matin, on n'aura pas un baptême, on aura une présentation. Alors la présentation n'est pas une cérémonie obligatoire. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un temps de prière pour demander la bénédiction de Dieu sur l'enfant et sur les parents. Et je crois que c'est important dans les temps que nous vivons, surtout, eh bien d'entendre la reconnaissance des parents pour le bébé qu'ils ont eu, hein, pour cette petite Annabelle, et aussi d'entendre l'implication de l'Église, hein, cette communauté qui veut agir ensemble pour entourer les enfants comme les parents dans leur mission éducative, hein, les aider à transmettre les valeurs de la foi. Et c'est vrai que c'est un jour de fête pour vous. C'est aussi un jour que nous voulons aussi marquer avec vous. Hein. Alors, quand nous lisons les évangiles, évidemment, l'enfant a une place particulière pour Jésus. Nulle part dans la Bible, nous voyons Jésus négliger un enfant. Nulle part, nous voyons Jésus rabaisser ou mépriser un de ses petits. Au contraire, il va leur accorder une place tout à fait particulière. L'évangile de Matthieu nous dit ceci. C'est pourquoi, dit Jésus, donc ce sont ses paroles, voilà, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et regardez ce que Jésus ajoute, et quiconque reçoit mon nom, un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on le suspende à son cou une meule de moulin, qu'on le jette, qu'on le noie au fond de la mer. Ah, Jésus est très sévère quant à ce qu'on pourrait faire de mal vis-à-vis d'un enfant. Et il ajoutera à ses disciples qui étaient un peu voilà, récalcitrants et qui étaient un peu, voilà, peut-être, nous ne voulons pas déranger le maître. Hein. Eh bien, Jésus insiste fortement et fermement, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et puis, il y a une histoire qui nous dit que, alors que les gens amenaient les petits-enfants, afin que Jésus prie pour eux, eh bien, les disciples lui leur firent des reproches. Hein. Et Jésus leur dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Et il rappelle, car le royaume des cieux est pour leur pareil, et Jésus leur imposa les mains. Jésus lui-même fut présenté au temple. Hein. Alors peut-être on peut se dire, on n'est pas au temps biblique, hein. Ça c'est du passé, ça a 2000 ans, et ça ne nous concerne plus, hein. Nous on est à l'ère de l'informatique. Hein. C'est vrai que bien des choses ont changé, mais il y a une chose qui ne change pas, les besoins fondamentaux de l'homme et spirituels. Les enjeux sont importants. Alors, notre société a connu depuis quelques décennies une vraie mutation dans le domaine de l'éducation, véritablement. C'est Jean Epstein qui disait ceci. De nos jours, les parents ne sont pas des missionnaires, mais ils ont été démissionnés. Ah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne devient pas parent comme autrefois. Enfin, oui, on devient parent, mais autrefois, on avait des enfants. Alors, on devient parent, ça veut dire que certains pensent que ce sont les professionnels qui doivent s'occuper de leur éducation, de transmettre les valeurs, afin que tout le monde soit avec les mêmes valeurs pour vivre dans une meilleure société. Alors là, la mission des parents se complique. Quelles valeurs voulons-nous pour nos enfants? Et comment faire quand ces valeurs contredisent les valeurs chrétiennes? Et c'est vrai que le monde a changé parce que nos enfants, des fois, en savent beaucoup plus que nous. l'accès à l'informatique, leur logique. Hein, je me souviens que je m'arrachais les cheveux, hein, il reste quelques voilà, traces. Quand j'apprenais les maths à mes filles, la soustraction, mais non, la maîtresse a dit qu'on faisait autrement. Mais non, je vous dis que c'est comme ça. Et c'est moi qui ai plié. Hein, voilà. Bon, ça, c'est juste de la soustraction. Ce ne sont pas des valeurs. Hein, c'est juste une logique. Mais au niveau de l'éducation, de l'instruction, eh bien, on peut mettre ça en parallèle avec la parabole de Jésus. Il y avait le maître qui a semé du blé, et pendant la nuit, un ennemi est venu et il a semé de l'ivraie. Et parfois, j'ai l'impression que nous avons nos valeurs qui sont vite piétinées. Ah là là, et il faut revenir et revenir. Ah, les copains m'ont dit ceci. Ah, la prof m'a dit cela, etc. Il faut sans cesse presque être là pour reprendre. Alors, c'est notre droit et notre devoir. Et ce sera votre droit et votre devoir en tant que parent de le faire. Et ce droit et devoir, eh bien sûr, sont donnés par Dieu. Alors, ce que nous désirons pour nos enfants, on est tous d'accord, c'est le meilleur, non? Eh oui, on veut le meilleur. Alors, comment leur apporter le meilleur? Alors ce matin, c'est aussi l'occasion de rappeler quelques fondamentaux. Alors tout d'abord, le meilleur passe par la transmission. Il est important de transmettre ce que nous croyons aux petits. Il y avait un commandement dans l'Ancien Testament. Hein, c'était Moïse qui a dit au peuple d'Israël, eh bien voilà un commandement de Dieu. Alors, et ces commandements, dit Dieu, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Ce n'est pas une option. C'était le devoir, un impératif. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il est évident que tout parent prie pour son enfant et tout parent demande la bénédiction. Et moi, j'aime cette prière qui dit, Seigneur, mets la crainte de ton nom dans le cœur de cet enfant. La crainte du Seigneur. Alors, il faut être clair là-dessus. Hein. C'est curieux comme expression. Hein. Est-ce qu'on peut prier pour qu'un enfant ait peur? Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Hein. Il ne s'agit pas de la crainte d'un Dieu dont il faut avoir peur et calmer avec des offrandes, hein, et des sacrifices. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas un Dieu capricieux. C'est un Dieu vivant et vrai. C'est un Dieu qui veut avoir autorité dans nos vies. Alors la vision d'un Dieu faussé peut être dangereuse pour nous. La crainte de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire reconnaître l'autorité de Dieu, le respecter pleinement. J'ai été surpris en lisant le livre des Actes, où il y a un travail absolument extraordinaire de Dieu, la naissance de l'Église. Que le mot crainte revenait à l'Église. Il est dit plusieurs passages, hein. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Une grande crainte saisit toute l'Église. Ailleurs, il est écrit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte de Dieu. Ah, et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Prions pour que ces jeunes cœurs puissent avoir la crainte de Dieu. Cette crainte qui est une confiance respectueuse et qui tient compte de ce que Dieu dit. Romains 8, 15 nous explique que, eh bien, qu'on n'a pas reçu un esprit qui nous tient dans l'esclavage en vivant dans la peur d'un Dieu gendarme. Mais bien au contraire, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons appeler Dieu Papa. Quelle merveilleuse relation que Dieu nous offre ici. Alors, cette démarche, eh bien, dans l'Ancien Testament, beaucoup l'ont fait. Il y a, par exemple, Anne qui a prié des années pour avoir un enfant. Et puis, elle a eu Samuel. Et la première chose à laquelle elle a pensé, elle a dit, je vais le rendre à Dieu. Il va servir au temple afin qu'il soit instruit, afin qu'on lui transmette les valeurs de Dieu. Le roi David a fait pareil avec Salomon. Quand il a eu Salomon, il l'a confié au sacrificateur afin qu'il soit éduqué dans la crainte de Dieu et le respect de Dieu. On voit la même chose avec Jean-Baptiste. Et aussi le jeune Timothée, dont Paul dit, reste attaché à ce qui t'a été transmis, à ce que tu as appris depuis tout petit. Ah oui, il est important de transmettre. Il est évident que il faut transmettre avec amour, hein? On n'est pas, comment dire, on n'est pas des sergents instructeurs. Voilà, il y a ça à faire, il y a ça à faire, hein? Nous restons des parents. Alors, bien sûr, quand on parle des parents, ça s'adresse aussi aux tontons, aux tatas, aux mamies, aux papis, etc. Hein? Nous sommes tous concernés par le fait d'aimer et de transmettre les valeurs. Parce que nous avons tous besoin d'amour. Ça, c'est une chose que l'on retrouve, quelle que soit la qualité de nos enfants, leur qualité, quel que soit leur talent, quel que soit leur défaut, leurs limites, leur physionomie, leur niveau intellectuel, nous sommes appelés à les aimer comme Dieu nous aime. Romains 8, 39 dit ceci: rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. C'est un des versets les plus simples et les plus profonds. Y a-t-il quelque chose qui nous sépare d'un enfant, qui nous a déçus? Quand j'étais gamin, je me rappelle, il y avait une question stupide qu'on me posait. Tu préfères papa ou tu préfères maman? J'aurais dû répondre, je préfère que tu te taises. Quelle question! Est-ce qu'on aime plus l'un ou l'autre? Bon, peut-être on peut souffrir plus de l'un ou l'autre. C'est vrai, c'est une réalité. Mais de manière générale, l'amour est quelque chose qui ne tombe pas dans la compétition, non? Ah, ton frère a mieux fait. Ou ta sœur est meilleure dans ce domaine. Et voilà nos enfants qui grandissent avec non plus une sécurité d'amour, mais une peur. Je dois faire pour être aimé. Que nos enfants ne recherchent jamais à monnayer l'amour que nous leur devons. Jamais. L'apôtre Paul disait, alors, on le mettait en compétition. Hein, ah, un tel apôtre est mieux, un tel est mieux qu'eux, etc. On mettait les apôtres de Jésus en compétition. Et l'apôtre dit, ben, nous n'aurions même pas à nous égaler ou nous comparer à ceux qui nous mettent en compétition, qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ils sont, version français courante, stupides. Ils établissent leurs propres mesures pour s'évaluer. Ils se comparent à eux-mêmes. Et c'est vrai que automatiquement, on compare. Hein? À l'école, il y en a un qui est peut-être mieux dans ce domaine, un autre qui est mieux dans un autre. Mais que jamais nous ne comparions nos enfants au prix de notre amour. Nous sommes appelés à les aimer. Les comparer, c'est manquer d'intelligence, d'après la Bible. Nous n'aurons et nous n'avons pas d'enfant idéal. Ce qu'on nous présente dans les catalogues, ça reste dans les catalogues. C'est du virtuel. Ça pleure, ça brame, ça a faim, ça ne paye pas le loyer, ça n'a pas ses papiers. Voilà, il est là, elle est là. Mais quel cadeau! Quel cadeau! L'amour est capital. L'amour est aussi capital pour poser des limites. Un pédagogue disait, dans la période de la petite enfance, nous devons rester des parents. Pas des copains. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, l'enfant doit rester l'enfant, l'autorité ne lui appartient pas. Un jour, j'ai vu dans une famille un gamin de 5 ans commander tout le monde. Alors, il a grandi et sa mère s'est fait convoquer à l'école, ça je me rappelle. Hein. Elle dit, on m'a convoqué. Pourquoi? Eh bien, le petit frère s'est levé sur la table. Et il a dit, et il a commencé à faire le bazar. Le directeur est rentré. Tout le monde a eu peur. Et le gamin a dit, qui tu es-toi? Le directeur a dit, je suis le directeur. Il dit, mon frère est plus fort que toi. Oh là là. Bon, il s'est fait recadrer. Hein? Et oui, l'autorité n'appartient pas aux enfants. Il nous appartient. Et il nous appartient de le gérer avec amour. Nous avons le devoir de transmettre, le devoir d'aimer et aussi le devoir de donner. Ah, on ne parle pas de l'argent de poche là, hein, les enfants, s'il y en a. Être parent, ce n'est pas seulement la naissance, hein, on est content. Et la suite après, hein? Et oui, et ça demande de donner. Hein? Vous savez, il y a une histoire comme ça, c'est un rabbin qui discutait avec un pasteur et un prêtre. Alors, la discussion, voilà, la question, c'est quand est-ce que commence la vie? Alors, le curé dit, bah, la vie, elle commence quand il y a voilà, la fécondation, etc. Et tout. Le pasteur, il dit, non, non, mais ça, on ne peut pas savoir. La vie, elle commence quand l'enfant naît. Et puis, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus. Et puis, ils vont voir le rabbin. Et puis, ils disent, rabbin, quand est-ce qu'elle commence la vie? Et le rabbin dit, oh là là, la vie, elle commence quand les enfants ils quittent la maison. Ah. C'est un sacrifice que nous sommes appelés à faire envers nos enfants. Donner du temps, donner de l'énergie. Alors, des fois, on veut se résumer, on synthétise, on dit, je veux donner du temps en qualité. Mais, je le rappelle, on ne peut pas donner du temps en qualité si on n'a pas donné du temps en quantité. Le temps pour écouter les petits bobos. Le temps pour écouter les histoires qui se passent à la maternelle, dont on se fiche royalement. Le temps de jouer avec eux. Le temps de trouver la force de se consacrer à eux après une journée de travail. Et là, je pense qu'en tant que père, je n'ai pas toujours été à la hauteur. Hein. Et oui, c'est une réalité. Nous sommes fatigués et nous aspirons à une chose, à nous reposer quand on arrive à la maison. Hein. Alors, il y a un autre temps aussi. Des fois, on se dispute avec nos enfants. Hein. Alors, il y a un conseil qui est sage, que nous dit la Bible. Alors ça s'adresse au père, peut-être aux mères, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà ce que l'apôtre Paul écrit. Vous, pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. C'est vrai que des fois, on est fort pour aller chercher, titiller les enfants, hein. Des fois, il y a des moments où les enfants ne sont pas d'accord avec nous, parce qu'on a toujours raison, ils n'ont pas compris. Hein, ouais. Mais ceci dit, ne laissons jamais un enfant se coucher avec un fardeau sur le cœur, surtout s'il s'agit d'une dispute. Ah oui. Je me rappelle encore, il nous est arrivé des fois de passer des heures avec un gamin avec qui ça ne s'est pas bien passé dans la journée. Et c'est pédagogue, et c'est juste de ne jamais laisser un enfant, un ado, un jeune se coucher quand il y a quelque chose qui a froissé. Il faut régler les choses. Alors, l'apôtre Pierre dit ceci, hein, il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est-à-dire que Pierre dit, mais on a tout sacrifié pour toi, Jésus. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, Jésus ajoute aussi plus loin, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! S'il ne hait, l'évangile nous appelle-t-il à haïr? En fait, l'expression hébreu veut dire aimer après. Nous pouvons apprendre à donner à nos enfants en voyant comment Dieu donne. Dieu, s'il reste une priorité, en vérité, le reste suivra. Un ado, un jour, était tombé sur ce verset. Chouette, il dit, je dois haïr mes parents. Je dis, non, plus tu aimeras Dieu, et plus tu aimeras tes parents. Plus nous aimerons Dieu, plus nous aimerons nos enfants. Alors, on a parlé de transmettre, on a parlé d'aimer, on a parlé de donner. Et un dernier point, il faut accompagner nos enfants. Un proverbe, un vieux proverbe dit ceci. Oriente le jeune garçon ou la jeune fille sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Un peu curieux, hein? Comment le comprendre? En fait, orienter, c'est accompagner. Comment est-ce qu'on peut accompagner nos enfants? Alors, il y a, alors très rapidement, quatre phases. Quand ils sont tout petits, hein, qui ne participent pas aux tâches ménagères, etc., qui ne font rien à la maison, c'est normal. Hein. Avant l'âge où ils savent lire, eh bien, nous avons besoin de faire pour lui, pour elle. Hein. On ne peut pas dire Voilà, pour pas dire, écoute, Annabelle, va faire ton biberon en bas. Si tu as faim, sers-toi. Hein? Les couvertures sont là, les bavoirs sont ici, et le lait, surtout, tu n'oublies pas de nettoyer après. Hein? On doit faire pour. En faisant pour, eh bien, on va aussi leur transmettre des valeurs, leur lire des histoires, leur apprendre qui est Dieu, comment est-ce qu'il nous aime, quelles sont ses exigences. Et puis, la deuxième étape, c'est faire avec. L'enfant est assez grand et on va commencer à faire avec. Alors ça, dans la pédagogie, la tradition juive, c'est extraordinaire. Hein? On voit ça chez Jésus. Hein? On commence déjà à les amener au pèlerinage, au temple. On commence à les amener à la synagogue. On commence à les amener à leur apprendre ce qu'on fait. Il faut faire avec l'enfant, lui expliquer ce que ça veut dire. Ceci, cela. Dieu dit, quand le peuple dit, quand vous ferez la Pâque, les enfants vont vous poser des questions. Expliquez-leur à quoi cela sert. Et puis, une fois qu'on a fait avec, ils grandissent, ils arrivent à l'âge de 10-12 ans, il faut faire à ses côtés. À 10-12 ans, en Israël, l'enfant rejoignait un groupe d'hommes. Hein? Il faisait sa bar mitzvah. Hein? Et on voit Jésus qui, à 10-12 ans, était au temple. Les parents, bon, il avait un peu oublié parce que Jésus était absorbé, mais on voit des parents qui cherchent à être à ses côtés. Et Jésus, à 12 ans, s'entretient. Et puis, faire pour lui, faire avec, faire à ses côtés pour l'amener à faire seul. Et je crois que c'est ça, accompagner un enfant, afin que, à un moment donné, on puisse l'aider à s'orienter sur la voie qu'il doit suivre. Depuis quelques années, je me réjouis véritablement de voir des parents qui sont soucieux de leur rôle et qui prennent à cœur le rôle de parent. Je voulais vraiment le dire ça. C'est un encouragement pour beaucoup parce que c'est vraiment un domaine où on a besoin de lutter. Alors voilà, c'est beau, hein? Oui, merveilleux. Un jour, une maman amène son petit garçon au culte et quand ils reviennent à la maison, le petit dit: Ah maman, je veux être comme le monsieur qui a parlé ce matin. Et la maman dit: Ah, tu souhaites servir Dieu à plein temps? Et il dit: Non, non, je veux dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Vous êtes d'accord, on est imparfait, hein? Comment arriver à ça? Alors, nos enfants ne le savent pas, mais arrivé à un certain âge, on se dit, qu'est-ce que j'ai pu rater? N'est-ce pas? Mais quelqu'un est prêt à nous aider. Laura, Jérémy, quelqu'un est prêt à vous aider. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et vous savez, Jésus fait exactement la même chose avec nous. C'est pourquoi Dieu nous appelle ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus, eh bien, veut nous transmettre son enseignement. Jésus veut nous aimer. Jésus nous a donné sa vie et Jésus veut nous accompagner. Alors, transmettre son enseignement, c'est, vous savez, c'est ce que tout à l'heure a dit Claude dans son témoignage. Il y a la Bible quelque part au grenier. Elle est bien au grenier, hein? Mais comment comprendre l'enseignement de Dieu si nous ne l'ouvrons pas, si nous ne le consultons pas, si nous ne l'écoutons pas? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce verset écrit il y a 3000 ans nous fait toujours du bien. Sa parole, surtout dans les moments obscurs, c'est une lampe à nos pieds. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça, c'est une valeur sûre sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Oui, transmettre la parole. La deuxième des choses que Jésus fait avec nous, il nous aime. Ce savoir aimé de Dieu. Ésaïe dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Jacques, ce matin, l'a rappelé, nous étions pécheurs. Et nous avions besoin d'être proches de lui. Et c'est par amour qu'il s'est donné. parce qu'ils nous aiment. Les parents sont capables de beaucoup de choses pour leurs enfants. Certains, malheureusement, non, mais beaucoup de parents sont capables de beaucoup de choses. Mais Dieu est allé jusqu'au bout pour nous montrer qu'il nous aimait. L'amour, dit Jean, ne consiste pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés d'abord. Et il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice. Jésus vous aime. Jésus aime la petite Annabelle. On l'a entendu, car Dieu a tant aimé le monde. Tu peux mettre de côté le monde, ça fait trop de monde. Hein. Tu peux mettre ton prénom. Jésus a tant aimé Laura, tant aimé Annabelle, tant aimé Jérémy, tant aimé Jean-Claude, Marilyn, tant aimé Jean-Paul, Sherazade. Jésus a tant aimé chacun d'entre nous, Dieu, qu'il a donné son Fils. Et puis, il a donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner. Vous savez, quand on donne, on pardonne aussi. Vous savez ce qu'est le mot, d'où vient le mot pardon? Le mot pardon vient de perfection et de don. Le préfixe « père », qui veut dire perfection, a été collé au don. Pardon. Parce que c'est le don parfait. Nous sommes pardonnés. Que vous puissiez vivre ce pardon aussi dans votre foyer. Et aussi apprendre ce qu'est le pardon à la petite Annabelle, comme nous sommes aussi appelés à l'apprendre à nos enfants. Et puis, bien sûr, il veut nous accompagner. Regardez cette dernière promesse que les évangiles nous laissent. Voici, je suis avec vous de 14 à midi et de 13h à 19h. Sinon, veuillez rappeler, dans la semaine, nous sommes fermés le week-end. Jésus n'est pas un fonctionnaire. Voici, je suis avec vous. Ah, il y en a qui ont compris maintenant. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Cela veut dire qu'il est vivant. Cela veut dire qu'il est agissant. Cela veut dire qu'il veut aussi nous transformer. Cela veut dire qu'on peut aussi compter sur lui. Quand nous défaillons, quand nous manquons notre but, nous pouvons aussi l'implorer. C'est cela l'évangile. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous appelle ses enfants quand nous nous donnons à lui. Et ce n'est pas pour rien que Dieu promet la présence du Saint-Esprit en nous. Alors je vous... Oui, Annabelle, on en parlera tout à l'heure. Tu as raison. Je veux vous laisser un verset à tous deux, Laura et Jérémy. Celui-ci de verset. C'est Dieu qui s'exprime. C'est un verset qui vient de l'histoire à l'époque de Moïse, qui a été transmis de génération en génération et qui est venu jusqu'à nous. Hébreux 13, 5. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et c'est pourquoi, dit l'auteur aux Hébreux, nous pouvons dire avec foi, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Eh oui, amen.